Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou avec vous. Il est 19h30 en temps universel, 14h30 ici à Washington. Bienvenue dans cette édition Le Monde aujourd'hui du lundi 12 août 2019. Et à la une de l'actualité, décès de l'artiste ivoirien Didier Arafat à la suite d'un accident de la circulation. Des fans en délire refusent de croire à la mort de leur idole. En Libye, les vols ont repris à l'aéroport Mitiga après l'arrêt des tirs aux abords de la capitale. À Hong Kong, fermeture du 8e aéroport le plus fréquenté au monde. Des milliers de manifestants pro-démocratie avaient envahi le hall des arrivées. Talibans afghans et négociateurs américains ont conclu leur dernier cycle de pourparlers en vue d'un accord. Dans 10 minutes, ne manquez pas l'économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Le prince du coupé-décalé Didier Arafat, de son vrai nom Ange Didier Huon, s'est éteint ce matin à Abidjan après un accident de la circulation. Sa moto hier soir a percuté un véhicule. À l'annonce de son décès, de nombreux fans se sont rués devant l'hôpital, refusant de croire que Didier Arafat n'était plus de ce monde. De nombreux artistes ont salué sa mémoire, ainsi que des hommes politiques comme Ahmed Bakayoko. Un hommage national lui sera rendu selon un communiqué du ministre de la Culture, Maurice Kouakou Bandaman. Notre correspondante Aïcha Diarra, à Boaké, a recueilli les réactions de jeunes Ivoiriens incrédules.
Il ne peut jamais mourir. Oh, Soubanalaï. Le virus. Jamais.
C'est faux. C'est faux. C'est du rumeur. C'est faux.
Le virus. Il ne peut pas mourir. Abé Yamassa.
Il ne peut, pas trop parler. Parce qu'il est trop parlé, allez là, peut-être être le quoi, c'est pas bon. Mais c'est un grand idole qui a quitté en Côte d'Ivoire. La force même est piquée, le président. Bah, il ne voit pas artiste. Tu vas atteindre son nouveau, il ne voit plus. Sincèrement, hein, ça me fait mal. Mais je ne crois pas. Même à présent, je ne crois pas d'abord s'il est mort. Mais si vraiment dit s'il est mort, que son nom repose en paix. Vous pouvez regarder, Nana. C'est tout ça qui a été. C'est allé le gars créer.
Non, mais il est mort même.
C'est soit il est désiré sur lui. Non, en tout cas, quand tu sais qu'elle est là, la jeunesse du Côte d'Ivoire me décroyait.
Tous les moyens.
Nous, toujours, on est décroyés. Il y a un frère, ça même. Faut montrer le photo de Djigobi. Faut montrer. Hier, il y a un vidéo de mon frère, ça. Il est en train de pleurer.
Ça fait mal à la jeunesse.
Tu dis.
Jeez.
Nous reviendrons sur la mort de Didier Arafat dans notre partie magazine avec le célèbre animateur ivoirien Didier Bléhou, qu'il a bien connu. La justice gabonaise va examiner le 26 août en appel la demande par des opposants d'une expertise médicale du président Ali Bongo Ondimba pour estimer s'il est apte à exercer ses fonctions 10 mois après un AVC. Le président du Gabon n'a pas pris la parole en direct et en public depuis qu'il a prononcé quelques mots à son retour à Libreville fin mars après 5 mois de convalescence à l'étranger. Un silence qui a poussé 10 personnalités de l'opposition, du monde syndical et de la société civile à demander cet examen. En République démocratique du Congo, 7 personnes ont péri dans le naufrage d'une balnéaire survenue samedi sur le lac Kivu dans l'est du pays. Les autorités ont comptabilisé 102 rescapés. L'embarcation privée transportait samedi 110 passagers vers l'île d'Idjoui. Le bateau a chaviré après avoir heurté un rocher. Par ailleurs, les traversées des Rwandais vers la République démocratique du Congo voisine étaient filtrées ce lundi pour la 7e jour consécutive pour lutter contre le virus Ebola. Depuis une semaine, les autorités rwandaises ont imposé des restrictions à leurs ressortissants désireux de se rendre à Goma où 4 cas de fièvre hémorragique ont été enregistrés. Au Soudan du Sud, des associations de la société civile ont lancé une campagne destinée à faire pression sur les anciens belligérants qui ont jusqu'ici échoué à former un gouvernement d'union nationale. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a remporté une bataille judiciaire ce lundi avec la décision d'un tribunal de Pretoria de suspendre une ordonnance de la médiatrice sud-africaine qui aura entraîné une procédure de censure au Parlement. En Libye, les vols ont repris à l'aéroport de Mitiga, le seul fonctionnel de Tripoli, après une suspension due à des tirs en violation d'une trêve entre les forces du maréchal Khalifa Haftar et celles du gouvernement d'Union nationale. Les précisions avec Yacouba Ouedraogo.
La reprise a été favorisée par un calme relatif autour de Tripoli. Réouverture de l'aéroport international de Mitiga après les opérations de maintenance et de nettoyage, et les compagnies peuvent rétablir leur vol, a publié la direction de Mitiga sur sa page Facebook. Cet aéroport se trouve dans la zone contrôlée par le gouvernement d'Union nationale, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli. Hier, il a été la cible des tirs selon la direction de l'aéroport. Les belligérants s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve réclamée par l'ONU durant la fête de Tabaski. Tripoli avait dit accepter une trêve humanitaire pour cette fête. Les pro-Haftar avaient aussi annoncé souscrire à un cessez-le-feu de samedi à lundi. Dans un communiqué commun, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont appelé les belligérants à cesser les hostilités sur l'ensemble du territoire. Le maréchal Haftar a lancé le 4 avril une offensive pour conquérir Tripoli. Après plus de 4 mois d'affrontements, ses forces stagnent aux abords de la capitale libyenne.
Le navire humanitaire Océan Viking a secouru ce lundi 105 migrants supplémentaires au large de la Libye et compte désormais 356 personnes à la recherche d'un port sûr pour débarquer.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici même, aux États-Unis, l'administration Trump a annoncé une nouvelle réglementation qui dénie désormais la nationalité américaine aux immigrants bénéficiant d'aides publiques. Le point avec Bagassi Koura.
Les immigrants qui seront jugés susceptibles de devenir des charges pour la société se verront refuser l'accès au territoire. Ceux qui sont déjà aux États-Unis se verront refuser la carte verte, le permis de séjour, précise une nouvelle réglementation publiée par la Maison-Blanche. S'ils ont déjà la carte verte, ils ne pourront pas obtenir la nationalité américaine. La nouvelle réglementation dite des charges pour la société vise les immigrants démunis qui bénéficient à leur arrivée sur le sol américain d'allocations logement ou de bons alimentaires pendant une période limitée. La loi sur l'immigration stipule que ceux qui viennent pour vivre aux États-Unis ne peuvent pas devenir une charge pour la société, rappelle la présidence américaine. Pour Ken Cuccinelli, directeur par intérim des services d'immigration depuis des années, cette exigence claire a été largement ignorée, faisant peser une énorme charge sur les contribuables américains et aujourd'hui, selon lui, la loi sur les charges pour la société va enfin être mise en œuvre.
Toujours. Le 8e cycle des négociations entre les États-Unis et les talibans afghans s'est achevé sans accord lundi au Qatar et les deux délégations vont consulter leurs responsables sur la suite du processus. Salwa Jafari nous en dit plus.
Longue et utile, c'est ainsi que le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid a qualifié ces négociations. Les deux parties ont discuté d'un certain nombre de points, trouvé des consensus sur certains d'entre eux, sans parvenir à une conclusion. Ces discussions qui se déroulent au Qatar depuis la fin de l'année dernière visent à négocier un traité de paix prévoyant un retrait des forces étrangères en échange de garanties de sécurité qu'apporteraient les talibans. Un tel pacte permettrait de mettre fin à 18 années d'intervention militaire américaine en Afghanistan. Washington réclame notamment des talibans la garantie qu'aucun groupe militant étranger ne sera autorisé à servir de l'Afghanistan comme refuge ou base arrière pour monter des attentats contre les États-Unis et ses alliés. Les deux parties ont décidé d'aller consulter leurs dirigeants pour les prochaines étapes.
L'aéroport de Hong Kong a annulé tous ses vols aujourd'hui dans une décision rarissime. Des milliers de manifestants pro-démocratie ont envahi le hall des arrivées pour protester contre les violences policières. Pékin durcit le ton, disant voir dans ce mouvement des signes de terrorisme. Le point avec Idriss Fall.
Le 8e aéroport le plus fréquenté au monde a annoncé aujourd'hui l'annulation de tous ses vols. Quelques 5000 manifestants, selon la police, ont envahi le hall des arrivées pour un 4e jour de sit-in. Certains brandissaient des pancartes où se lisait « Honte à la police, les policiers de Hong Kong nous tuent ». Au cours de ce 10e week-end de mobilisation, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes dans le métro et dans les rues. Les protestataires ont répliqué en leur lançant des briques. Quelques minutes plus tôt, à Pékin, Yang Guang, porte-parole du Bureau des affaires étrangères de Hong Kong et Macao, a accusé les manifestants d'avoir recours à des objets extrêmement dangereux afin d'attaquer des policiers, ce qui constitue, selon Pékin, un crime grave et révèle les premiers signes de terrorisme. La Chine avait averti la semaine dernière que ceux qui jouent avec le feu périront par le feu.
Joe Biden, le favori de la primaire démocrate aux États-Unis, dans une tribune publiée ce lundi, promet de rétablir l'interdiction des fusils d'assaut en l'accompagnant cette fois d'un programme de rachat afin de débarrasser les États-Unis de ses armes de guerre s'il est élu président en 2020. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA et voafrique.com. Place à présent à l'actualité économique qui nous est présentée ce soir par Nani Talani.
Dans le nord de la République du Congo, découverte du premier gisement onshore du pétrole de 9 392 m² dans le département de la Cuvette. Il pourrait produire jusqu'à plus d'un milliard de mètres cubes d'hydrocarbures, soit 983 000 barils par jour, ce qui pourrait quadrupler la production pétrolière de Brazzaville. Le gisement du delta de la Cuvette dispose de 4 puits dont le premier est en perforation depuis mars. Son exploitation a été confiée à 2 sociétés dirigées par l'homme d'affaires congolais Claude Wilfried Etoka. La raffinerie nigériane de pétrole Dangote, la plus grande d'Afrique, ne sera pas achevée avant la fin 2020 en raison de problèmes d'importation d'acier et d'autres équipements. Cette structure pourrait faire passer la société Dangote du statut de plus grand importateur de carburant à celui d'exportateur net. Le Nigeria, qui importe la quasi-totalité de son carburant, compte sur la raffinerie de Dangote d'une capacité de 650 000 barils par jour. Terminons cette minute éco avec le royaume des Swatini, ex-Swaziland, qui envisage de réduire les allocations de logement, de voyage et de représentation des ministres. Les allocations de logement seront réduites de 25% à 12,5% du salaire annuel. Les indemnités de divertissement seront réduites de 7%. Le premier ministre et son vice-président contribueront à 33% à leur propre couverture médicale et sont les seuls autorisés à voyager en première classe.
Place à présent à notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
Football avec les préliminaires allées des compétitions africaines des clubs.
Oui, en Ligue des Champions, l'AS Vita Club de Kinshasa s'est contenté d'un nul 0-0, piège au Cameroun sur le terrain de l'UMS de Loum. Même score entre les Ivoiriens de SO Armé et les Mauritaniens du FC Nouadhibou. Mamelodi Sundowns a chuté 2-1 au Congo sur le terrain de l'AS Otoho. Les Buffles béninois de Borgou ont été tenus en échec à domicile 1-1 par l'ASCK de Kara du Togo. L'étoile sportive du Sahel a été battue 2-1 par Afia de Conakry sous une pluie battante. L'autre club guinéen, le Oroya, est allé chercher le nul 1-1 à Bamako contre le stade malien. Le club malien a manqué d'un meneur de jeu, comme nous le dit son coach Djibril Drami.
On avait besoin d'un meneur qui pouvait quand même prendre le ballon pour essayer de ravitailler la ligne d'attaque. Les gens, on a misé sur eux. Vraiment, ils n'ont pas pu le faire. Ça se comprend. Il y a un problème de compétitivité.
En face, c'est une belle opération pour les Guinéens, d'après Ibrahima Kondé, joueur du Oroya AC.
Un nul en déplacement pour Oroya, ça nous arrange. Jouer en domicile, c'est-à-dire c'est le match le plus compliqué.
Des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako.
Belle performance des clubs algériens.
La JS Kabylie s'est imposée 1-0 face au Soudanais de l'Amérique, pendant que l'USM Alger a gagné au Tchad 2-1 devant l'AS Sonidep. Bonne performance aussi pour les clubs zambiens Esco United et Green Eagles, vainqueurs respectivement des Green Mamba 2-0 d'Orlando Pirates 1-0. Kano Pilar du Nigeria remporte son duel contre les Ghanéens d'Asante Kotoko 3-2. Le second représentant nigérien Enyimba a chuté au Burkina Faso 1-0 devant Raimo. Le Raja de Casablanca a ramené un nul 3-3 de la Gambie contre Bikama United. De quoi susciter la colère du coach Rajawi, Patrice Carteron.
Et on a donné 2 buts à l'adversaire très facile qui n'attendait que ça. On leur a donné de la confiance. Mais encore une fois, ça va être un bon signal de rappel pour que nos joueurs comprennent que la Champions League, ce n'est pas des matchs amicaux.
Début réussi pour SAE du Bénin en Coupe CAF.
Pour sa première participation à une Coupe africaine, le club universitaire de Cotonou a rassuré en l'emportant 5-0 en Mauritanie sur le terrain de l'ASC Snim. Une première réussie également pour les Égyptiens de Pyramide FC
qui ont fait parler la poudre à domicile en disposant 4-1 de l'Étoile du Congo, victoire 2-1 des Guinéens de Saint-Toba au Nigeria contre Niger Tornados. À Lomé, Maratana n'a pas fait de détails devant les Libériens de l'IS RGA. Score 3-0, enfin match nul 1-1 entre les Gabonais de Pélican et les Congolais de Maniema. Les matchs retour des deux compétitions se joueront dans 2 semaines.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, toujours en votre compagnie, on passe à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Au Tchad, les militants du parti, les transformateurs qui ont initié une parade ce dimanche 11 août, date commémorative du 59e anniversaire de l'ascension du pays à la souveraineté internationale, ont été gazés par des éléments du groupement mobile d'intervention de la police. Les précisions d'André Komandjingar, notre correspondant à N'Djamena.
Feu François Ngarta Tombanbaye, premier président tchadien, proclama officiellement l'indépendance du Tchad le 11 août 1960. Une indépendance qui, pour les uns, est un état d'esprit et pour d'autres, une conquête permanente au regard des défis d'aujourd'hui et de l'avenir.
Si les pères fondateurs de notre pays n'ont pas pu modeler une république terre d'opportunités pour tous, reconnaissons ensemble qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient.
Docteur Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, avec un regard critique, il fustige le comportement des dirigeants qui, après 59 ans d'indépendance, laisse mourir à petit feu une catégorie de Tchadiens.
59 ans plus tard, environ 4 millions de nos compatriotes, victimes de la famine, n'ont rien à se mettre sous la dent. 4,5 millions d'enfants sortent du système scolaire avant 15 ans. Et nous, les politiques, nous offrons à ces compatriotes le spectacle d'un film, d'une sorte de théâtre, mais en fait responsable de rien quand il s'agit de la vie des Tchadiens.
En 59 ans d'indépendance, le président de Bissel totalise environ 30 ans de pouvoir. Madame Louise Garadoumbri, membre de la majorité présidentielle, estime que le président a consacré plus de la moitié de son règne à gérer des conflits sanglants.
Si ce n'est pas la rébellion, c'est le problème des éleveurs agriculteurs. Donc, c'est ça qui a affaibli le régime MPS. Aujourd'hui, c'est complété avec le conflit de Boko Haram.
Pour Dobia Singar, président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, l'indépendance a été octroyée aux Tchadiens par la France, qui continue à tirer les ficelles à travers ses ingérences politiques et militaires. Il se rappelle encore la modification de la Constitution en 2005.
Un constitutionnaliste français dont je ne me rappelle pas le nom qui m'a obligé à changer de constitution. Où est la souveraineté et où est l'indépendance du Tchad? Ça s'appelle de l'ingérence, simplement. C'est tout.
Pour le secrétaire national aux affaires juridiques et politiques du parti au pouvoir Jean-Bernard Padaré, la France a demandé à Déby de modifier la Constitution simplement pour l'aider à lutter contre Boko Haram dans la sous-région.
À l'époque, il a dit cette phrase là quand ces journalistes français l'a accusé de s'éterniser au pouvoir. Quand un ami constate que quelque chose de dangereux peut vous arriver et qu'il suggère d'améliorer cela, vous pensez que c'est une ingérence? Si la France laissait faire, il y aura l'immigration.
André Kotmajingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
C'est aujourd'hui le 20e jour, la 20e journée de la jeunesse, avec environ 1,8 milliard de personnes âgées de 10 à 24 ans. Le monde n'a jamais compté autant de jeunes qu'aujourd'hui, estiment les Nations Unies. Les moins de 30 ans représentant 50% de la population mondiale et 70% de la population en Afrique à moins de 25 ans. Le thème cette année met l'accent sur les efforts visant à rendre l'éducation plus inclusive et plus accessible pour tous les jeunes. John Lindon a joint à Dakar, Mabing Ngom, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population à Dakar.
L'Afrique est un continent jeune, c'est donc cette jeunesse, je pense, qui sera un peu au rendez-vous en 2030, mais également en 2063, lorsque nous allons célébrer l'Afrique que nous voulons. Donc une Afrique en bonne santé, une Afrique paisible, stable, une Afrique prospère. Donc cette Afrique s'est construite aujourd'hui et nous devons la construire en investissant dans la jeunesse africaine.
Alors, les moins de 30 ans représentent 50% de la population mondiale et 70%
10% de la population en Afrique a moins de 25 ans. Cela pourrait aussi poser à l'avenir des problèmes de démographie.
Les problèmes se posent déjà, surtout dans beaucoup de parties en Afrique au sud du Sahara. Je pense notamment à la zone du Sahel ou à l'espace un peu du bassin du lac Tchad, des régions où nous avons une population qui est majoritairement jeune, mais une population qui a des difficultés pour aller à l'école, donc pour trouver des emplois productifs. Et je pense qu'une population qui a également des difficultés pour la réalisation de leurs ambitions. Donc c'est d'ailleurs ces difficultés qui expliquent aujourd'hui que ces jeunes ont tendance à traverser un peu l'océan, la Méditerranée. Ils ont également tendance à traverser un peu le désert. Et je pense que vous savez mieux que tout le monde que lorsqu'ils n'arrivent pas et qu'ils reviennent, ils se radicalisent. Donc il faut absolument que nous puissions en tout cas investir dans cette jeunesse en créant des opportunités donc pour les jeunes en termes d'accès à l'éducation, d'accès aux services de santé, d'accès à des emplois productifs. Mais ce n'est pas suffisant parce que tant que la femme va continuer à avoir plus de 5 enfants en Afrique au sud du Sahara, il nous sera difficile de régler un peu le stock que nous avons, mais également de faire face aux besoins des nouvelles cohortes donc qui viennent s'ajouter sur le stock déjà existant. Bon, donc, il s'agit donc d'une part de répondre aux besoins actuels, pressants de la jeunesse en termes d'emploi, d'éducation, de santé, mais également d'investir dans ce que j'appelle un effort pour contenir le croît démographique très fort qui fait que la demande sociale augmente de plus en plus et que les pays, les familles, les individus et les communautés et même leurs partenaires au développement ne sont pas capables de répondre à tous ces besoins.
Justement, en termes de besoins, je pense que l'un des plus pressants, c'est l'emploi. On constate qu'en Afrique, il y a des jeunes très bien éduqués, mais qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Il y a inadéquation entre les études et les offres d'emploi proposées. Comment résoudre cette équation?
La question de l'inadéquation formation-emploi, je pense que c'est avéré un peu être le mauvais côté de l'équation. Mais je pense que le fond du problème, c'est plutôt une croix démographique très forte qui fait que l'économie ou les économies ne sont pas capables d'absorber ces 20 millions de demandeurs d'emploi additionnels chaque année.
Mabinge Ngom, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population à Dakar.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Mépris, discrimination, voire agression, le rejet des populations noires reste prégnant dans les pays du Maghreb. Alors que les Européens cherchent à limiter l'afflux des subsahariens, le Maroc veut se positionner en terre d'accueil en multipliant les campagnes de régularisation. Mais l'installation définitive ou même temporaire de ces migrants n'est pas encore assimilée par la société marocaine. Et l'âme le cœur s'est rendu à la rencontre de subsahariens à Tanger. Ils témoignent du racisme anti-noir au quotidien. Reportage.
Ces livres sont exposés aux maladies, nos femmes sont exposées aux maladies.
Paul loue avec sa femme, son fils de 4 ans et une belle-sœur, un studio de 4 mètres carrés à peine, dans un quartier éloigné du centre-ville. Le propriétaire marocain encaisse sous le manteau 100 euros par mois pour ce logement qui ne respecte aucune norme. À l'intérieur, la chaleur est étouffante, l'air est irrespirable, l'humidité et la moisissure recouvrent les murs, pas de fenêtre non plus pour aérer. Et quand Paul et sa famille sortent du taudis, eh bien l'enfer continue.
Parfois, ils nous appellent Aziz, parfois, ils nous appellent esclaves, ils nous appellent parfois le singe.
Aziz signifie nègre en arabe dialectal marocain. Et cela fait plus de 6 ans que le Camerounais vit le racisme au quotidien, a commencé dans les services publics.
Le noir n'est pas bien accueilli. Parfois, vous êtes rejeté. Parfois, on a amené un frère qui était blessé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin ne voulait pas le toucher parce que c'était un noir. Parfois, on appelle l'ambulance, même le service de secours. Quand un noir est par terre, blessé, bien malade, il arrive tardivement.
Logement insalubre. Hors de prix, marchand de sommeil, travail au noir, une véritable économie parallèle se fait sur le dos des migrants.
Quand je travaille dans le chantier avec les Marocains, je travaille 7 jours, il me dit bon, je n'ai pas d'argent, je te donne d'abord 3 jours. Mais il a payé tous ses frais marocains, donc il m'a pas payé mon argent jusqu'à lui. Et si tu vas à la police ne va rien faire, ils vont dire bon, vous demandez, bon, vous arrêtez même pour refouler hors de la ville d'étranger.
Paul s'estime chanceux d'avoir trouvé un toit, car pour d'autres subsahariens, la roue n'a jamais tourné. Pierre Calvin a élu domicile dans la forêt tangéroise depuis 2014. Le champion de boxe, comme le surnomme ses amis rêve de partir en Europe. En attendant, il doit supporter la discrimination.
La xénophobie est intense. Tu ne peux pas emprunter un bus sans qu'on attrape le nez. Comme si l'autre dit même, enlève ton pantalon pour voir si tu as la queue. Nous vivons le racisme tous les jours. Tout ça parce qu'on rêve d'aller en Espagne. Je me demande vraiment ce que l'on a fait de mal. J'espère qu'être immigrant sur Terre, ce n'est pas un déluge.
Pierre Calvin vit aussi avec la peur au ventre. Il a vu bon nombre de migrants disparaître du jour au lendemain autour de lui.
On ne peut pas marcher librement parce que la police va nous appréhender en civil. Que tu aies les papiers ou pas, on va te refouler. Dans le désert du Sahara. On a les frères qui meurent. Hein.
L'an dernier, près de 1400 migrants sont décédés sur les routes désertiques du continent africain. Des chiffres donnés par l'Organisation internationale pour les migrations qui parlent d'un décompte certainement sous-évalué.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le chanteur ivoirien Didier Raphat, star du coupé décalé, est mort ce lundi à 33 ans des suites d'un accident de la circulation. De son vrai nom, Huon Ange Didier pilotait une moto lorsqu'il a percuté une voiture cette nuit. Didier Raphat était au top niveau depuis 15 ans et avait été désigné meilleur artiste de l'année aux Awards du coupé décalé en 2016 et 2017. Idriss Fall a recueilli la réaction de Didier Bléou, animateur de la RTI2 à Abidjan.
Tout a commencé hier soir après son accident et moi j'étais en contact avec Mollard. Mollard c'est un artiste aussi qui fait un peu office de parrain du coupé décalé actuellement. Nous étions en contact lorsque ce matin je l'ai eu pour m'enquérir des nouvelles de Didier Raphat et il m'a annoncé la triste nouvelle.
Même beaucoup de fanatiques ont refusé de croire en son décès.
Ah oui, c'est clair. Je pense que au fin fond de la Côte d'Ivoire, les gens y croient pas parce que on est dans un milieu où le buzz a pignon sur rue, mais cette fois, malheureusement, c'est la vérité, Didier Raphat est parti.
Quelle est l'importance de l'homme? On dit que c'était un provocateur, on dit qu'il insultait tout le monde. Quelle est sa place au sein du coupé décalé?
Bon, moi je ne suis pas de ce côté. Je vous dirais que c'était un travailleur. C'était un artiste au sens plein du terme. Je l'ai vu venir, il a fait ses premiers pas à mon émission. C'est un artiste charismatique. Révolutionnaire qui n'aimait pas, qui fuyait vraiment les sentiers battus. Ça, je peux vous le dire, nul n'est parfait, c'est vrai, mais professionnellement, c'était quelqu'un qui faisait avancer le mouvement coupé-décalé, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à travers le monde, quoi.
Est-ce que le vide qu'il va laisser pourra être rempli par quelqu'un d'autre? Ce n'est pas la fin du coupé-décalé.
De remplacer quelqu'un, il y a d'autres talents. Maintenant, on espère que le coupé-décalé pourra aller de l'avant. Il est venu, il a joué sa partition. Maintenant, il faut que les autres prennent le relais. Mais dire que quelqu'un va le remplacer, bon, moi, je ne vois pas les choses comme ça.
Vous le voyez comment alors?
Ben oui, chacun va laisser éclater son savoir-faire, son génie. Lorsque Duxaga est parti, les gens s'étaient posé la même question, ben, qui sera le leader? Est-ce que le coupé-décalé va survivre? Ben, Arafat a surgi. Donc voilà, c'est sûr qu'il laisse un vide, ça c'est clair. Ça, c'est très clair.
Mais le coupé décalé va continuer à couper et décaler donc pour l'avenir.
Oui, si on veut vraiment respecter la mémoire de Didier Raphat et de Duxaga, il faut bien que le coupé décalé continue.
Didier Bléou, animateur de la RTI2 à Abidjan. D'ailleurs, pour un hommage à Didier Raphat, nous allons écouter un extrait d'Apéro, un featuring avec Toufan.
Voilà musique qui consomme.
Papa Samuel a
dit allez, maman, Baby chocolat, danser, 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 dan
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la maison de Lionel Gaïma, à la console Nashwan Kali. C'était Ekabadou avec vous et je vous souhaite une excellente suite de programme à l'écoute de VOA.
Quand le verre se transforme en acier, Emmanuel Adebayo.
Tous les mamans qu'on va danser, à rapporter la souffrance, toute la prise va danser.
C'est un ninja.